Ce message vous est proposé gratuitement, et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà, le message d'aujourd'hui, ça sera un message sur un thème que certains connaissent parce que nous l'avons déjà souvent développé, mais on a tellement besoin encore qu'il soit placé dans son juste contexte. C'est le titre, c'est le pouvoir des paroles. Et le pouvoir des paroles à la lumière particulière d'une série sur l'autorité du croyant et sur la façon dont nous pouvons expérimenter et exercer ce que le Seigneur nous a donné. Donc l'idée, c'est que certains d'entre nous, nous le savons, d'autres ont plus de mal à le croire, mais nous pouvons tous tirer davantage bénéfice de cette vérité divine. Et je souligne trois fois vérité divine, parce que c'est pas une invention de quelqu'un, ce n'est pas l'autosuggestion, ce n'est pas à force de parole qu'on se convainc de quelque chose. Et donc en introduction, parce que nous plaçons sur vraiment le terrain de la Bible et la parole de Dieu, rappelons-nous les histoires que nous avons lues, histoires pas dans le sens qu'on de fait, mais des vraies histoires de la parole de Dieu. Le Ponce Pilate, au moment où il était en présence de Jésus, il lui a demandé « qu'est-ce que la vérité ?» Il a posé cette question. Et à ce moment-là, nous savons que le Seigneur Jésus, il y a un certain nombre de choses qu'il n'a pas pu dire. Parce que s'il avait dit certaines choses, l'histoire n'aurait pas pu se dérouler. S'il avait dit « je suis innocent, vous ne pouvez pas me mettre à mort », nous savons que la puissance qui aurait été dans ses paroles à lui, Dieu l'aurait justifié, il n'aurait pas pu être crucifié. Mais il a volontairement voulu donner sa vie. Donc à un moment donné, quand Pilate demande « qu'est-ce que la vérité ?», beaucoup disent que chacun a sa vérité. Alors ça peut être pratique parce que ce que l'un déclare être la vérité, l'autre ne l'accepte pas, ça lui permet de vivre la façon dont il veut. Mais nous croyons que Jésus a dit « je suis la vérité ». Et donc c'est des paroles, il y a des paroles qui ont une portée extraordinaire. Quand il a dit « je suis la vérité », nous devons maintenant faire attention à tout ce qui peut sortir de sa bouche. Nous considérons que toute la Bible est parole de Dieu, mais je sais, il y a des Bibles certaines, ils ont les paroles de Jésus en rouge. Ils ont mis celles qu'il a réellement proclamées, quand Jésus dit, alors ils ont mis les paroles en rouge. Donc certains ont dit, c'est spécialement important de prêter attention. Mais une des paroles, vous pourrez dire que c'est vraiment en rouge, c'est dans Marc 11, 23. Si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Imaginez, vous avez Jésus en face de vous, il est en train de vous dire cette phrase. Si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. On a l'impression, mais non, c'est pas possible, c'est trop fort, c'est pour certains, ça serait même trop beau pour être vrai de pouvoir se sortir d'une situation. Et pourtant, c'est la réalité. La réalité de ce que nous pouvons lire tous ensemble. J'ai plusieurs fois enseigné ce thème biblique essentiel. Mais je me rappelle une fois, j'avais préparé un message sur ce thème. Et le matin, en me préparant avant d'aller au culte, j'avais écouté les informations. Et donc j'écoutais la radio et les informations annonçaient la mort de l'actrice Denise Gray, pour ceux qui se rappellent, c'est une actrice de théâtre très célèbre en France. Et donc elle avait 99 ans et quelques mois. Et le commentateur à la radio disait, elle avait toujours dit qu'elle vivrait jusqu'à 100 ans. Donc je ne sais pas jusqu'à quand elle était, mais quelqu'un, ça m'a frappé parce que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, de préparer le sujet sur l'importance de nos paroles et comme nous connaissons ce petit livre sur ce que vous dites s'accomplira, que c'est vraiment Jésus qui l'a déclaré, ce que vous dites s'accomplira. Et voilà que la radio du monde annonce une nouvelle du décès d'une personne qui disait pendant sa vie, je vais vivre jusqu'à 100 ans. Et elle a fait 99 et quelques mois. Donc, peu importe maintenant qu'elle n'ait pas eu 100 piles ou... Mais quelle confirmation c'était pour moi ce jour-là. Une confirmation venue d'un endroit inattendu. Donc pour nous, c'est important qu'on réalise ça, le pouvoir des paroles et tout ce pouvoir que Dieu a donné à l'être humain. Nous sommes vraiment, nous faisons partie de cette création, mais nous sommes des êtres différents. Nous ne sommes pas des animaux évolués. Nous sommes des êtres différents. Alors, premier point que nous devons voir ensemble à nouveau, c'est le pouvoir de choisir entre la vie et la mort. Ça sera la première partie, le pouvoir de choisir entre la vie et la mort. Le pouvoir de choisir. Chaque être humain a un pouvoir de choisir. Il a un droit. Dieu lui a donné un droit de faire des choix. Comme par exemple, peut-être quelqu'un a déjà vu une série policière. Alors, particulièrement dans les séries policières américaines, selon le droit américain, quand le criminel est arrêté, il faut lui faire connaître ses droits. Et si on ne lui lit pas ses droits, même si toutes les preuves sont accablantes contre lui, il peut repartir libre parce qu'on ne lui a pas lu ses droits. Mais ça me fait réfléchir à ça, de dire combien c'est important, pas qu'il y ait des droits, mais que les droits que nous avons soient connus, sinon on ne peut pas bénéficier. Et c'est comme ça, on vit dans un monde maintenant qu'on appelle de droit. Des fois on trouve que le monde n'est pas juste, parce qu'il peut y avoir une différence entre la justice et le droit. Mais le droit, c'est un ensemble de règles qui définissent notre façon de vivre ensemble, qui peuvent être plus ou moins justes ou correspondre à ce que nous aimerions, mais c'est une réalité. Ça réglemente notre vie en société. Et donc, il est important que les gens connaissent leurs droits. Mais spirituellement aussi, il est important que chaque être humain qui est un être créé à l'image de Dieu, qui est spirituel, connaisse ses droits. C'est pourquoi nous faisons tous les efforts possibles pour prêcher, enseigner, diffuser la parole de Dieu, pour que les gens connaissent leurs droits. Quels sont leurs droits en Christ? Ce qu'ils peuvent faire, ce qui leur appartient. Alors, une des choses importantes, c'est ce droit et ce pouvoir de choisir. Et nous pouvons prendre pour cela un verset en Proverbe, dans Proverbe 18, le verset 21, dit la chose suivante. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. J'ai toujours trouvé que cette phrase était un peu étrangement construite. Parce que la mort et la vie, on a deux choses, sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime est au singulier. Il peut aimer qu'une chose à la fois. Il ne peut pas aimer la mort et la vie. Je choisis les deux. C'est pas possible. Dans nos décisions que nous prenons tous les jours, on fait des choix qui ont une influence dans notre vie. Nous savons que lorsqu'il y a eu la chute de l'homme, la loi du péché et de la mort sont entrées dans le monde. Avant, il n'existait pas la mort. Adam et Ève étaient programmés génétiquement pour vivre éternellement. Ce n'est que lorsque le péché est entré que la mort est venue. Donc, il y a la loi du péché et de la mort, et il y a une nouvelle loi, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et maintenant, ces deux lois se combattent, on peut dire, et nous sommes maintenant dans un monde où règne la loi du péché et de la mort, et en même temps, nous sommes dans le royaume de Dieu où règne la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, à nous de choisir quotidiennement, de prononcer des paroles de vie, de choisir la vie pour que nous puissions bénéficier de ce que Dieu nous a donné. Un peu plus haut, verset 20, il nous est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est étrange ça, vous ne trouvez pas? Peut-être quelques-uns, c'est par la parole qu'ils exercent leur profession. On pourrait penser à un professeur ou quelqu'un qui enseigne ou un journaliste. On pourrait dire, oui, ce qu'il déclare de sa bouche, c'est son travail et le résultat qu'il en obtient, c'est ce qui lui permet de pourvoir à ses besoins. Mais on pourrait prendre maintenant dans l'autre sens quelqu'un qui serait agriculteur, qui travaille la terre. On ne voit pas en quoi le fait qu'il parle ou qu'il ne parle pas est une influence. Ça veut dire que ce n'est pas une loi naturelle, c'est une loi spirituelle. Du fruit de sa bouche, il rassasie son corps. Ça veut dire que ce que nous disons a un impact sur toute notre vie, y compris sur notre existence terrestre, y compris sur tous les détails matériels. Vous pouvez le croire ou ne pas le croire, mais c'est quand même une loi spirituelle qui est indiquée ici. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et cette langue, ou plutôt si vous préférez les paroles que nous disons, elles ont un effet dans notre vie tout le temps, tout le temps. Tous les jours, nous avons quelque chose qui affecte notre vie. Par exemple, dans le domaine physique, 1 Pierre 3:10, c'est un enseignement qui est comme un peu aussi sous forme d'étude biblique, parce que nous regardons énormément de versets de la parole de Dieu, puisque c'est ce qui nous intéresse, de voir ce que Dieu nous dit dans sa parole. 1 Pierre 3:10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, vous voyez, on vient de lire, quiconque l'aime en mangera les fruits. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui ne désire pas ça? Ceux qui sont malades mentalement, se font du mal à eux-mêmes, ils sont perturbés psychologiquement, mais sinon, une personne normalement constituée, elle aime la vie et veut voir des jours heureux. Eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Il faut préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. On peut même lire le verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Mais dans le contexte de ce qui nous intéresse, donc, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses a un effet bénéfique sur notre vie, pour voir des jours heureux et pour voir la vie se manifester. On peut dire ici, il y a un effet sur la longévité et la santé. Prenez aussi Proverbe 21-23. Il dit, bon, vous n'avez pas besoin forcément de chaque fois tourner toutes les pages de votre Bible, de noter les références, mais nous allons les parcourir ensemble. Alors, Proverbe 21-23, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Et on peut penser aussi que si nous avons une conscience sensible, parce qu'il y a des gens qui ont une conscience dont ils ne tiennent pas compte, et endurcie, mais si nous avons une conscience sensible, des fois, si nous permettons à notre langue de prononcer certaines choses, après on le regrette. On peut se tourmenter et se dire, oh, j'aurais pas dû lui dire ça, maintenant je regrette. Mais une fois que c'est parti, les effets de la langue continuent. Et même si vous vous excusez, même si vous demandez pardon, ça ne veut pas dire que automatiquement l'effet de ce que vous avez dit va s'arrêter. Peut-être vous avez fait tous les efforts pour rétablir la situation et même vous vous êtes pardonné à vous-même, mais ça peut encore avoir des effets. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment manier avec précaution. Je ne le dis pas parce que vous devez être maintenant tendu à la moindre chose qui sort de votre bouche. On va voir une meilleure façon de gérer notre langue que seulement l'autocontrôle. Quelqu'un qui aurait une capacité, une forte volonté pourrait s'en sortir. Non, il y a mieux que ça. Mais voyons d'abord les effets. Donc, ici, ça a un effet sur le domaine psychique, l'état de notre âme. Or, l'état de notre âme, ça vous fait penser à un autre verset de 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, tout cela est nouveau lié. La santé, les paroles, etc. J'avais eu l'occasion de déclarer que le pasteur Dion Guichot avait eu une discussion avec un neurochirurgien et il avait dit, on vient de faire une découverte extraordinaire, c'est que le centre du contrôle de la parole dans le cerveau a un effet sur tout le corps. Il a dit, oui, je le sais, le docteur Jacques l'avait déjà déclaré. C'était dans l'épître de Jacques dans la Bible. Il avait dit la langue, et on va voir encore l'un ou l'autre extrait de Jacques. Donc on a ce pouvoir de choisir entre la mort et la vie, on a ce pouvoir, un droit divin de choisir, on voit les effets de la langue, et on voit aussi dans la parole de Dieu la place de la parole de la foi. Parole de la foi, eh bien, une doctrine particulière, c'est quelque chose qui résume ce que Dieu a voulu communiquer à l'être humain. On peut choisir la vie éternelle auprès de Dieu. Dans Romains 10 et les passages suivants, les versets de Romains 10, quelques-uns qu'on va lire, à partir du verset 6, Paul est en train d'expliquer quelque chose et il dit « Et voici comment parle la justice qui vient de la foi. » Nous savons que nous sommes justifiés par la foi, à l'image d'Abraham qui n'a pas marché selon la loi, mais selon la foi. Il a eu confiance en Dieu. Alors comment est-ce qu'elle parle, cette justice? Elle dit, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Qu'est-ce que dit la parole de la justice? Elle dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous prêchons, tout prédicateur devrait prêcher la parole de la foi. L'apôtre Paul disait, je suis quelqu'un qui prêche la parole de la foi. Et comment elle s'exprime cette parole de la foi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche, déclaré. Donc voilà, c'est ça l'évangile que nous prêchons. L'évangile, c'est une décision d'appartenir à Jésus. Accepter son œuvre, croire dans son cœur. Qu'est-ce qu'on doit croire dans son cœur? Que Dieu l'a ressuscité des morts. Si on croit que Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire qu'on accepte son œuvre et que Dieu aussi a accepté son œuvre de sacrifice. Sinon, il ne l'aurait pas ressuscité. Il a accepté son œuvre de sacrifice et il l'a ressuscité. Et on se déclare pour lui. On le reconnaît comme Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire confesser Jésus comme Seigneur. Ça veut dire je déclare que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur de ma vie, je l'accepte comme Seigneur. Je me prends une position. Confesser, ça veut dire la même chose que quelqu'un. Dieu l'a déclaré Seigneur, moi aussi je déclare qu'il est Seigneur. Et donc ça fait prendre une position, on peut dire, juridique au niveau spirituel, au niveau de l'univers. On en est là. C'est la justice de Dieu. Alors tous les jours, nous avons des choix à faire. Et ce passage, souvent dans le Nouveau Testament, en fait, ce sont des références, des extraits de certaines choses que Dieu a déjà dit dans l'Ancien Testament. Et ça, nous trouvons de parallèle dans Deutéronome 30. Deutéronome 30, nous lisons les versets 15. Voici, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc nous avons des choix de vie à faire. Et ces choix de vie, comment est-ce qu'ils se font? Par la façon dont nous parlons. Et il nous est dit que ce commandement, on peut dire cette loi, versets 13 et 14, ce commandement, il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et qui ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. C'est ce que nous devons vraiment laisser entrer en nous. C'est cette parole de Jésus, dans ta bouche, si tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive. Dans ta bouche et dans ton cœur. Alors, faites bien attention et bannissez de votre vocabulaire l'expression « on n'a pas le choix ». Ne le dites plus. Et hier encore, nous avons planté un pommier hier et mon épouse a dit « on n'avait pas le choix ». C'était le seul du magasin. Alors, on ne veut pas non plus s'embêter dans la vie quotidienne pour des petits détails, mais nous voulions un Granny Smith parce que nous aimons bien ces pommes vertes acidulées. Et donc, comme il y a quelques années, le vent a soufflé, la tempête nous a déraciné notre petit arbre, on a essayé de le sauver, mais ce n'était pas possible. Et donc, on a replanté hier un nouveau Granny Smith. Mais quand elle a dit on n'avait pas le choix, elle avait raison. Parce que c'était celui-là. Et il n'y en avait que un. Mais dans un autre sens, si on y réfléchit, on avait le choix. On aurait pu repartir du magasin sans rien acheter. Mais ce n'est pas un choix qui nous plaît forcément. Mais faisons attention parce que des fois on dit on n'a pas le choix et dans notre tête, c'est un absolu. Vous comprenez la différence? Là, c'était quelque chose de la vie quotidienne où ça n'a pas un grand impact. Parce que on n'avait pas le choix, il n'y avait que celui-là, c'est celui-là qui nous convient, c'est très bien. Mais il y a d'autres situations quand les gens disent on n'a pas le choix, ça veut dire autre chose pour eux. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre possibilité. Et ça, c'est différent. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours une possibilité. Nous venons de le dire. Lire ensemble, il y a la mort et la vie, choisis la vie. Voilà ce que dit Dieu. Donc, dans certains aspects de notre vie quotidienne, on peut dire, voilà, c'est ça ou rien du tout. Mais sinon, dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a toujours un choix. Nous avons le pouvoir de choisir et le pouvoir d'exercer l'autorité spirituelle. Dieu a donné à l'homme une place spéciale dans la création. On a déjà vu qu'on n'est pas un animal évolué. Il nous a créé à son image et il nous a donné une autorité. Et celle-ci s'exerce par la parole. Vous vous rappelez de Genèse, il nous était dit dominer, dominer sur la création, donner des ordres. Adam a nommé les animaux. Il a dit, voilà, toi tu t'appelles comme ça. Et toi tu t'appelles comme ça. Il lui a donné des noms. Et en donnant un nom, en général, ça veut dire que j'ai, entre guillemets, un certain pouvoir sur la personne. Je prends maintenant des guillemets. Parce que ça veut dire que maintenant tu n'es plus un inconnu. Je connais par ton nom. Il y a quelque chose qui se produit. Un ensemble de choses que je connais de toi. Il y a un lien qui s'établit. Mais donc, il faut faire attention, bien sûr, de la manière dont on exerce maintenant cette autorité. Cette autorité n'est pas destinée à être exercée contre un être humain. Mais pourtant, nous avons, dans Matthieu 18, 18, le pouvoir de lier et de délier. Comment allons-nous le faire? C'est par la parole. Il y a des personnes qui lient d'autres personnes. Et si des parents disent sans cesse à un enfant, tu feras jamais rien de ta vie, tu feras jamais rien de ta vie, tu es bon à rien, et on est en train de le lier encore et encore et encore. On met des entraves, on le rend incapable de s'épanouir, de se développer et d'accomplir sa destinée. Donc dans ce sens déjà, c'est quelque chose qui s'exerce, une autorité. Là c'est une autorité qui n'est pas de Dieu et qui ne devrait pas s'exercer de telle façon. Mais on peut dire à l'inverse aussi, la capacité de délier. Quelqu'un qui a des complexes ou qui a des difficultés, à force de lui dire, mais prends courage, vas-y, tu vas arriver, tu vas pouvoir t'en sortir. C'est une façon de délier, c'est une façon d'aider. Bien sûr, et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on pourrait aussi voir tout cet aspect dans le cadre de la démonologie, mais on va le développer plus largement une autre fois, par rapport à notre combat contre les puissances des ténèbres. Mais pour aujourd'hui, on va en rester à cette dimension de l'autorité au niveau de la parole et de ce que nous pouvons faire pour lier ou pour délier. Jésus a loué cet homme qui avait déclaré, dit un seul mot et mon serviteur sera guéri. C'est dans Luc 7, en particulier au verset 7. Dit jamais en Israël je n'ai vu une si grande foi. De réaliser qu'un seul mot pourrait transformer la vie de quelqu'un. Imaginez ça, un seul mot. C'est pour ça que nous avons repris ce slogan quand nous disons « Une parole de Dieu peut changer ta vie pour toujours ». Et dernièrement, j'ai eu une nouvelle pensée aussi. Et un seul mauvais conseil peut ruiner ta vie pour toujours. Une seule pensée de travers. Et je donnais comme illustration Roboam dans 1 roi 12. Il a reçu un seul mauvais conseil. C'était les jeunes gens qui avaient été élevés avec lui, qui ont dit « N'écoute pas les anciens et leurs conseils. Écoute ce que nous allons te dire. Ton père a été dur envers le peuple et toi tu vas les asservir encore plus. » Et comme résultat, ça a fait éclater le royaume d'Israël en deux Et ça a créé des problèmes pendant des générations et des générations, de guerres et de conflits entre eux. Un seul mauvais conseil, imaginez, peut ruiner votre vie pour toujours. Et une seule parole de Dieu peut changer votre vie pour toujours. Donc, exerçons continuellement cette autorité spirituelle que Dieu nous a donnée et qui est tellement précieuse pour nous. Rappelez-vous aussi dans Marc 4, quand Jésus a dit à la tempête, « Silence, tais-toi !» Et aussitôt, il nous a dit, il y eut un grand calme. Dans le grec, c'est le mot « méga ». À un moment, c'était la mode, on a eu plusieurs modes au niveau de l'utilisation des mots. Alors, vous pouvez situer dans quelle génération vous êtes selon que vous disiez « super » ou « hyper » ou « méga ». Et à un moment, donc, la Bible nous dit qu'il y eut un grand tourbillon, méga tourbillon, et ensuite il y a un grand calme, méga calme. C'est-à-dire que Dieu apporte une réponse proportionnée aux besoins. Toujours. Il n'y a pas un grand problème et un petit Dieu. Quand il y a un problème, Dieu a les solutions pour le résoudre. Donc, il a dit cette parole, silence, tais-toi, et il a rétabli le calme. Il a dit un seul mot, le serviteur a été guéri. Il a utilisé son expression pour lier et délier. C'est le Seigneur Jésus, mais nous devons agir à son image. La façon dont il a agi. On dit des fois cette expression de la Bible, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Tel il a été, tel il agit, tel nous sommes appelés à agir. Et comment il était dans le monde? C'est l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14 qui nous le dit. Au commencement était la parole. Le pouvoir des paroles. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est des passages qu'il faut vraiment relire et méditer. Imaginez, rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Souligné encore, le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu en faisant le choix, en choisissant la vie. C'est comme ça qu'on accède à cette position d'enfant de Dieu. Dieu donne la vie, mais nous, on choisit de la recevoir. Les siens ne l'ont pas reçu. C'était pas absolu. Ça veut dire qu'il n'a pas été accueilli. Mais dans un deuxième temps, certains, heureusement, se sont tournés vers lui. Alors, ils sont nés, ces enfants de Dieu, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous aimerions voir la gloire de Dieu se manifester bien davantage. Eh bien voilà une des clés, c'est que cette parole habite pleine de grâce et de vérité en nous et dans notre vie. On a ce pouvoir de le faire. Et remarquez bien, on passe au point suivant, il y a une puissance créatrice aussi dans nos paroles. On a vu que c'est la parole, tout a été fait par la parole, tout a été créé par la parole. Et ça fait directement référence pour moi à Hébreux 11, où nous lisons aussi au verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Ça, c'est encourageant pour nous. Parce que souvent, on pense que ce que nous voyons, ce que nous touchons, ça, c'est la réalité. Le reste, c'est immatériel, c'est flou, c'est... Mais ici, plus on médite là-dessus, plus on a ces certitudes que c'est les vérités de la parole de Dieu, elles sont plus réelles, elles sont plus actuelles, elles ont plus de puissance que ce qu'on voit de l'œil visible. Et c'est comme ça qu'on amène les choses à l'existence. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes aussi capables de créer des choses. Nous n'avons pas encore vu des animaux qui créent des choses. Ils le font par instinct. Certains arrivent à imiter. Le perroquet peut faire des sons, mais on n'a pas une conversation avec lui. Hein? Même si il répète quelques phrases. Donc nous ne sommes pas créateurs comme Dieu. On ne se met pas à sa place. C'est lui le créateur. Mais nous sommes capables, à son image, de créer des choses. On parle de la création artistique. On parle de ce que l'homme est capable de faire. Et nous sommes surtout capables d'appeler à l'existence. Dieu appelle à l'existence, une autre version de la Bible dit, il appelle du néant, de ce qui n'est pas. Eh bien, nous n'appelons pas du néant, mais nous appelons de ce qui est dans la parole et que Dieu a créé à sa réalité ici. Les références sont Genèse 1, 26, où il nous est dit que nous sommes créés à son image, et Romains 4, 17, que Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'est pas, ou qui appelle de ce qui n'est pas à la réalité. Romains 4, 17. Et nous avons aussi l'apôtre Paul qui défendait la résurrection devant ceux qui l'accusaient dans Actes 26, 8. Il disait, quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? C'était vraiment une expression dans la pleine discussion. Mais enfin, vous réalisez pas, Dieu est capable de ressusciter les morts. C'est pas un problème pour lui. Nous avons lu ces paroles faites chair. On a lu les 14 premiers versets de Jean. Et là, je dois faire une petite critique par rapport au film de Jésus de Nazareth de Zeffirelli. Si vous avez vu ce film, à chaque fois qu'il y avait une intervention de Jésus ou un miracle, nous voyons un Jésus muet. Il ne parle pas. Il a une expression, il a des signes, mais il n'a pas de mots. Pour moi, ce n'est pas... Bien sûr, on a tous peut-être aimé certaines choses par rapport à des films sur Jésus. Pourquoi? Parce que ça nous parle de la personne de Jésus et on le voit agir. Mais là, il y a un décalage important entre la réalité telle que nous la lisons dans la Bible et ce que le cinéaste a rendu. Parce qu'il a voulu parler de la personne de Jésus, mais là, il y a une part de révélation concernant la parole qui n'est pas du tout présente. Or, pour nous, c'est essentiel. La parole a été faite chair. Jésus a accompli beaucoup de choses, non pas comme, entre guillemets, si je peux me permettre, un magicien qui ferait un acte de sa puissance, mais il l'a fait par la parole. Il a dit, eh bien, qu'il te soit fait selon ta foi, je le veux, sois pur, etc. Et nous avons toutes ces expressions dans les évangiles, mais là c'est totalement absent. C'était juste pour attirer votre attention sur cette révélation n'a pas été soulignée dans le film. Donc, on a vu dans Hébreux 11, verset 3, que le monde, l'univers, a été formé par la parole de Dieu. Et là où c'est écrit l'univers, dans une autre version, c'est écrit le monde, et dans certains, c'est même écrit les mondes, parce qu'il y a plusieurs créations. Nous ne sommes pas les seuls êtres qui existent dans l'univers. Il y a aussi des êtres angéliques, et il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Mais pensons davantage à, s'il y a des mondes, on peut aussi dire que nous sommes dans notre monde. Nous ne sommes pas seulement dans le monde, nous sommes heureusement plus dans le système du monde, mais nous avons notre monde. Des fois on dit, on a notre petit monde, parlons de la maman qui s'occupe des enfants, ou des fois on dit de quelqu'un, il est dans son petit monde, à lui. Mais nous pouvons changer notre monde. On ne peut peut-être pas changer le monde entier, mais on peut changer notre monde, on peut changer des choses dans notre monde. Rappelez-vous cette parole que Jésus prononce, il te sera fait selon ta foi. Est-ce que tu crois que c'est possible que des choses changent dans ton monde? Alors crée des circonstances favorables. À la lumière des promesses qui sont dans la parole de Dieu, change des choses dans ton monde en utilisant le pouvoir de tes paroles. Alors, une autre partie, c'est de parler du pouvoir des paroles qui construisent. Notre langue, nos paroles permettent de nous édifier. Vous vous rappelez peut-être d'une émission de jeu télévisé et les candidats disaient « C'est mon dernier mot, Jean-Pierre ». Donc, beaucoup connaissent cette émission. Alors, les candidats pouvaient essayer de répondre aux questions, ils pouvaient être hésitants, etc. Mais à un moment donné, il fallait qu'ils disent cette phrase magique « C'est mon dernier mot, Jean-Pierre ». Et donc, ça voulait dire que maintenant, on n'y revient plus. Mais dans notre vie, quelque part, en prenant cette illustration amusante, qui a le dernier mot dans notre vie? Il y a Dieu qui dit des choses dans notre vie, le diable en dit d'autres, et vous avez les gens qui soit ils sont des envoyés de Dieu, certains vous parlent les promesses, vous encouragent, et d'autres essaient de vous décourager, de vous impressionner, ou de vous menacer aussi, ça arrive. Et donc, finalement, quelqu'un aura le dernier mot. Et qui c'est ce dernier mot? C'est vous-même. C'est même pas Dieu qui aura le dernier mot dans votre vie. Il a le premier mot, en fait, sur votre vie. Il vous dit « Choisis la vie ». Et l'autre dit « Choisis la mort ». Il le dit pas comme ça, mais il dit « Cette voie est plus facile, plus agréable ». Mais il vous dit pas comment ça va terminer. Et donc, vous devez, avec ces voix que vous entendez, hein, vous n'êtes pas en train de devenir fou, mais vous entendez des gens qui vous parlent, parce que tout le temps, et je suis d'autant plus étonné, il y a des gens qui n'ont aucune autorité dans un domaine, mais ils vont vous dire. Vous dites, j'ai un peu mal ici ou là, ils vont vous dire ce qu'il faut prendre. On dit, mais est-ce que tu es médecin, toi? Quelle autorité tu as pour prescrire un médicament à quelqu'un? On a en France une chose qui est condamnée par la loi, c'est la pratique illégale de la médecine. Mais quotidiennement, des milliers de personnes font ça. Ils prescrivent aux autres ce qu'ils devraient prendre, sans savoir, et des fois sans savoir quelles peuvent être les conséquences. Donc on entend des voix, droite à gauche, qui s'élèvent et qui parlent dans notre vie, mais à un moment donné, il faut qu'on sache qui a le dernier mot. Ben, c'est moi-même. Est-ce que mon dernier mot sera juste répéter ce qu'un autre aura dit? Ou est-ce que je me suis vraiment forgé ma certitude basée sur la parole de Dieu? Donc, à un moment donné, c'est moi qui ai le dernier mot. Je suis ma plus grande source d'influence. Et vous aussi, vous pouvez le déclarer. Je suis ma plus grande source d'influence. L'illustration est dans Marc 5, la femme qui avait des pertes de sang parce qu'elle se disait. La Bible nous dit « elle se disait ». Et je suis persuadé qu'elle ne s'est pas dit juste une fois « oh, je vais essayer ce truc avec Jésus, peut-être que ça a marché ». C'était pas ça. C'est une personne qui était arrivée au bout. Marc 5, 25. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Plusieurs, c'est pas deux ou trois dans la Bible. Ça veut dire beaucoup. Beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, chacun avait sa théorie, chacun avait ses essais qu'il faisait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, sans avoir éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, la foi vient de ce qu'on entend, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait. Il n'est pas dit, à ce moment-là, elle a dit, si je touche son vêtement, je serai guérie. Car elle se disait à cette notion d'une phrase permanente. Elle était tellement découragée, rien n'avait marché, c'était de pire en pire, mais quand la foi a jailli, on peut dire que cette pensée était devenue une obsession dans le bon sens du terme, devrait être obsédée dans le bon sens du terme de la parole de Dieu. Que cette parole soit en nous constamment. Elle se disait, si seulement je peux toucher son vêtement, il faut que j'atteigne Jésus. Alors je serai guéri. Elle le disait encore et encore. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Encore une fois, important pour nous de réaliser que Jésus n'était pas omniscient et omnipotent et omniprésent à ce moment-là. Il était devenu comme un simple homme. Il a été lui-même incapable de dire qui était la femme. Il ne le savait pas. Il n'a pas joué en faisant semblant. Je sais bien que c'est toi, mais je vais te lancer la perche et te dire qui c'est. Non, il ne savait pas. Et il n'a pas déclenché le miracle de lui-même. Il n'a pas dit je vais maintenant faire en sorte qu'une force sorte de moi. C'est vraiment elle qui, en 10 ans, a pu obtenir cette guérison venant du corps de Jésus. Quel encouragement pour chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'attendre le mouvement de l'eau, de l'ange. On peut nous-mêmes venir à lui et recevoir. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, tu dis qui m'a touché. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Va en paix, ça veut dire, sois rendue entière. Shalom, c'est complet. C'est tout est restauré. Y compris maintenant, tu pourras à nouveau avoir une vie sociale, tu pourras de nouveau prospérer, parce qu'elle avait perdu tout son bien. Et à cause de son état, normalement, elle ne devait même pas être au milieu d'une foule. Rien qu'à cause de son état, elle aurait pu être lapidée si les gens l'avaient su. Vous vous rendez compte? On n'imagine pas, des fois, dans notre société actuelle, ce que ça voulait dire pour la femme de l'époque, ce qu'il lui fallait comme courage et comme détermination pour obtenir. Donc, je suis la plus grande source d'influence. Si je dis, selon la parole de Dieu, certaines choses, ça va produire quelque chose. Je vais me construire, m'édifier. Bien sûr, prier dans l'esprit est aussi une réalité. 1 Corinthiens 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Éphésiens 5, 19 aussi. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels. Comme on a eu l'occasion de dire, le dimanche matin, on fait notre jogging spirituel ensemble. Parce que peut-être des fois, on serait un peu découragé. La chair n'a pas envie de faire le jogging, mais notre esprit est déterminé. Et finalement, après, c'est une bienfait pour tout le monde. Le pouvoir des paroles qui construisent. Notre langue nous permet d'édifier les autres. Ça, c'est dans Éphésiens 4, verset suivant, de 29 à 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On a beaucoup de choses qui se passent dans les contes de fées, les fables, les histoires, mais alors on imagine maintenant, par exemple, l'histoire bien connue de Cendrillon et les bonnes fées qui sont penchées sur le berceau et chacune veut lui faire un cadeau, etc. Et donc toutes ces choses qui ont nourri l'imagination de l'enfance de beaucoup, mais nous avons quelque chose qui est bien mieux encore, mais qui est une réalité. Nous devons nous voir pas comme une bonne fée, hein, on a d'autres choses, mais nous avons en nous une grâce qu'on peut communiquer. Une grâce, une faveur. Quand quelqu'un est en ma présence, je devrais considérer que maintenant, je lui fais une faveur d'être en sa présence. On dirait dans le langage ordinaire, il a de la chance de m'avoir comme ami. Mais la chance, nous, on n'y croit pas trop, et peut-être lui ne le réalise pas, mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, partout où vous êtes une source de bénédiction, vous pouvez communiquer une grâce. Quand vous ouvrez votre bouche, il y a des bonnes choses qui sortent. S'il y a lieu, une bonne parole qui serve à l'édification, qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire n'utilisez pas mal votre bouche. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Disparaisse. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si vous avez un sujet de vous plaindre de quelqu'un, vous avez envie de murmurer, de ne pas être content, pensez de nouveau que comme Dieu vous a pardonné en Christ, je ne retiens pas ces petites choses, sans valeur, sans signification, ce n'est pas important. Et à l'inverse, quand il s'agit de vous, vous devriez traquer les moindres choses, dire je veux encore progresser dans ces domaines. Je pense à cette tradition qu'on a ici du Osterboot, ça veut dire avant Pâques, on nettoyait les maisons à fond, etc. Et qui est un peu une transmission de cette tradition juive que à la Pâques, il fallait que la maison soit propre, qu'il n'y ait aucune trace de quoi que ce soit, de levain, et donc tout devait être nettoyé. Eh bien, c'est l'image un peu de notre maison. Avant que la vie de résurrection puisse se manifester parfaitement, il faut des fois que toutes ces choses, la moindre petite amertume, animosité, colère, combattez-les. Laissez-les. Dès que vous avez envie de vous plaindre, la Bible donne un bon conseil, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Là, on peut tellement se faire du bien. Et, sous-entendu, donc, puisque vous parlez des bonnes paroles, renoncez au mensonge. Verset 25. Renoncez au mensonge. C'est comme ça qu'on ne donne pas accès au diable, qui est verset 27. La langue exercée soutient ceux qui sont abattus. On l'a lu ensemble en introduction de ce prédication, mais ce n'est pas sur l'enregistrement. Donc on va reprendre Ésaïe 50, verset 4. Voilà ce que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. On a aussi des bons conseils dans les Proverbes. Proverbe 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La langue des sages apporte la guérison. Jacques 3 nous dit que quelqu'un, s'il est capable de dompter sa langue, c'est un homme parfait. C'est dans Jacques 3, 8. Parfait dans le sens de maturité. Mais nous savons que sans l'aide de Dieu, on ne peut pas atteindre la perfection. Mais pourtant, on y tend. Et la perfection, dans ce sens, veut dire une maturité. J'apprends maintenant à gérer mes émotions, à ne plus démarrer au quart de tour, comme on dit. Et à force d'exercice, parce que c'est aussi ça, Ésaïe 54, la suite, c'était tous les matins, il ouvre mon oreille pour que j'écoute comme les disciples. Une langue exercée est le résultat d'une discipline, de quelque chose de régulier que je fais. Peut-être, au bout d'un moment, je vais encore de temps en temps avoir un écart de langage, mais je le crois de moins en moins, de moins en moins. Et si je dis des bonnes paroles, pendant ce temps, il n'y a pas de mauvaises qui en sortent. C'est aussi l'idée de Jacques, on va peut-être le voir encore. Il dit, est-ce que d'une source peuvent sortir de l'eau douce et de l'eau amère en même temps? Non. Donc, si on fait le bon choix, nous prenons l'habitude de dire des bonnes paroles. Cette langue exercée soutient ceux qui sont abattus. Et aussi, ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. Psaume 45, verset 2. Au lieu de dire qu'on a des problèmes d'élocution, j'ai des problèmes pour parler, même Moïse l'a fait. Quand Dieu voulait l'envoyer, il dit, mais je serai avec toi et je te montre par des miracles que je déploie ma puissance. Il dit, mais j'ai la langue embarrassée. Moi, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à m'exprimer. Envoie quelqu'un d'autre. Donc, Dieu lui a dit, ben, je te donnerai Aaron. Toi, tu recevras mes paroles, tu les transmettras. Et en fait, c'est Aaron qui a été le porte-parole de Moïse pour beaucoup de choses. À cause de cette façon dont Moïse ne se voyait pas capable. Mais vous aussi, allez au-delà. Certains ont des talents naturels comme orateurs, mais nous croyons que ça ne suffit pas pour faire l'œuvre de Dieu. Si on veut être une source de bénédiction, il faut plus que ça. Il faut du surnaturel. Et de Étienne, on disait, on était surpris des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Des paroles de sagesse. Les objections de Moïse, c'était dans Exode 4, 10. Mais notre déclaration, c'est dans 2 Corinthiens 3, 5. Et il dit, notre capacité vient de Dieu. Il y a peut-être ce que je suis dans le naturel, mais il y a aussi ce que je peux être dans le surnaturel, de recevoir une capacité de Dieu. J'ai dit le pouvoir des paroles qui construisent, et le dernier point, c'est le pouvoir des paroles qui détruisent. On a déjà vu dans Proverbe 12, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. On peut faire du mal. La langue est un feu. » On revient à Jacques 3. C'est comparé à un petit feu qui est pourtant capable d'enflammer le cours de la vie. Comme j'ai dit, un mauvais conseil peut détruire votre vie. Mais aussi, le fait de laisser un petit feu se développer, ça peut avoir de grandes influences. On peut penser au feu, pas seulement dans le sens négatif, mais aussi de la puissance de l'amour. Je crois que c'est dans le Cantique des Cantiques qui est dit, tout à la fin, je voudrais le lire. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Il y a une grande puissance de cet amour qui se manifeste. Ça peut aussi être des fois destructeur. Il y a aussi tous les aspects négatifs. On parle de l'amour, mais il y a aussi la passion. Il y a tout ce que ça peut produire de destructeur. D'un autre côté, il faut aussi voir qu'il y a un bon aspect. Et c'est pas parce que ça peut brûler qu'on n'utilise plus le feu. On l'utilise pour se chauffer, pour cuire, etc. Mais il faut savoir le dompter, il faut savoir bien l'utiliser. Et Jacques 3:5 nous parle de ce petit feu d'abord, mais ça peut faire penser à certaines paroles, justement, qu'on peut dire à la légère. On peut dire, mais c'était juste pour rire. Oui, bon, il y a un moment pour rire, nous dit la parole, il y a un moment pour pas rire, mais des fois, en lançant des plaisanteries, ça peut faire démarrer quelque chose qui va être destructeur. Donc, faisons attention à cela. Pourquoi ne pas bénir, tout simplement? Et puis, le Proverbe 12:18 qu'on a lu, tel qui parle à la légère, c'est aussi pour soi-même, c'est pas seulement les paroles qu'on dit sur les autres. Comme on entend souvent des personnes qui, on peut dire, qui se maudissent elles-mêmes. Comme je suis bête, et encore je reste poli en disant ça. Oh, je n'ai pas de mémoire. Ou d'autres, dès qu'il y a un moindre oubli, maintenant on invoque l'Alzheimer, cette maladie de perte de mémoire. Alors faisons attention à ça. Ne nous trompons pas d'adversaire. Accuser les autres, calomnier, dire du mal. Et même si c'est vrai. Parce que si c'était faux, ça serait un mensonge. Mais calomnier, c'est parler encore en négatif ou en mal de quelqu'un. Ce n'est pas utile et ce n'est pas communiquer une grâce et bénir. Et réfléchissons à quel esprit nous anime. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? La langue qui apporte la destruction, c'est aussi notre parole qui peut annuler la prière. Rappelons-nous dans Matthieu 15:6. Quand il nous est dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. On prie dans un sens, et après on dit, oui, mais ça a toujours été comme ça, ça n'a jamais marché, ou il n'a jamais changé, des choses comme ça. C'est une tradition, c'est une habitude de parler qu'on a eue, qui annule ce que nous avons essayé de changer spirituellement. Et le dernier point, c'est, nous avons ce pouvoir dans nos paroles d'abattre les forteresses. 2 Corinthiens 10 nous dit, au verset 4, que nous avons des armes avec lesquelles nous combattons. Et ces armes, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles ne sont pas charnelles, ce ne sont pas des armes charnelles, ce ne sont pas des disputes de mots, ce n'est pas une argumentation de l'un contre l'autre. C'est une façon de prononcer des paroles qui sont spirituels, qui détruisent une forteresse de raisonnement. On a raisonné, c'est comme ça, et une parole de Dieu vient. Un peu comme cette pierre dans la Bible qui est jetée contre une montagne, et puis il y a tout qui s'écroule. C'est l'image de cette grande statue qui s'écroule. Alors les armes avec lesquelles nous combattons, quelque part, l'apôtre Paul dit qu'il y a les armes offensives et défensives de la justice. Nous connaissons les armes. Le descriptif des armes se trouve dans Éphésiens 6, c'est là que c'est le plus complet. On a toutes les armes défensives, de l'armure du chrétien, le casque, la cuirasse, le bouclier, la ceinture, les chaussures, tout ça. Et nous avons une arme offensive, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu prononcée dans notre bouche. L'épée de l'esprit n'est pas la Bible en tant que livre. Cette Bible n'est qu'un livre tant qu'elle ne prend pas vie par l'Esprit de Dieu et dans ma bouche. C'est là qu'elle devient puissante. C'est ça la différence. C'est pour ça que beaucoup, si on en reste au stade où c'est un livre, je comprends que certains disent c'est de la théorie, c'est de la théologie, ça ne change pas notre vie. Mais quand le Saint-Esprit s'en empare, qu'elle vient dans notre cœur et qu'elle sort de notre bouche, ça change tout. Déjà notre destinée éternelle. Et donc, abattre les forteresses, rappelez-vous que Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est 1 Jean 3:8. Il y a une guerre ouverte. Et dans Marc 1, il y a un résumé d'un certain nombre de choses que Jésus a accomplies en quelques versets. Et je vais vous lire ces quelques versets. À partir du verset 21, « Ils se rendirent à Capernaum, le jour du sabbat. Jésus entra d'abord dans la synagogue, il enseigna, et ils étaient frappés de sa doctrine. » Frappé, ce n'est pas doux, hein. Frappé avait un choc. Pourquoi ? Parce qu'il enseignait comme ayant autorité, non pas comme leurs scribes. Il disait, c'est comme ça. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Il trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, un verbe fort, et disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Il n'a pas été, « Voudrais-tu bien sortir de cet homme ?» L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et poussant un grand cri. Des fois, c'est violent. Nous avons aussi un combat pour nous-mêmes. Pour se sortir de certaines situations, il faut savoir se battre. Tous furent saisis de stupéfaction, en sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est ceci ? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Parce que tout le monde peut donner des ordres aux esprits impurs. Mais la différence, c'est ils obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Je n'ai jamais vu le film L'Exorciste et je ne recommande certainement personne de le regarder, mais ce que j'en sais de ce que j'en ai entendu, c'est que le fait est qu'une jeune fille, je crois, est possédée, mais que les gens religieux qui arrivent et n'arrivent rien à faire, et que c'est le diable qui l'emporte. Alors pour nous, ça c'est inacceptable. Nous avons la réalité que quand Jésus dit des paroles d'autorité, les esprits impurs sortent et ils lui obéissent. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Et ailleurs, il dit, il menaça la fièvre. Dans une autre version parallèle. Il n'a pas juste pris la main, il a parlé quelque chose. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa beaucoup de démons. Comment ? En leur parlant. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Au verset 40, un lébreux vint à lui, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Voilà le combat dans lequel nous sommes engagés. Et acte 10, 38 dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Sous l'empire. Donc il y a une confrontation, mais nous avons l'onction de Jésus pour agir en son nom. Donc, concluons, consacrons notre langue à parler la bénédiction. Bénissez, ne maudissez pas. Chaque jour, soyons revêtus de l'armure de Dieu. Exerçons-nous au maniement de l'épée de l'esprit. Une bonne déclaration ensemble. Mes paroles définissent ma position. Mes paroles sont les points de repère dans ma vie. Mes paroles influent sur mon esprit. Je dis de bonnes paroles qui communiquent une grâce. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.